France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Oh, qui va mal? Qui ça qui va mal? Le disque classique, mais ça fait tellement longtemps qu'il va mal, des décennies, des siècles même. J'ai l'impression que c'est comme cette musique. En règle générale, elle est tellement près de la mort et de son expression qu'on la croit toujours disparue ou sur le point de l'être. Eh ben, le disque pareil. Mais aujourd'hui, deux directeurs de labels sont avec nous. L'un fête ses 25 ans, l'autre est en train de refonder totalement des séries de labels, comme quoi les choses au moins se renouvellent. Jusqu'à 13h, nous sommes avec Stéphane Topakian et Didier Martin.
Luna lunetta, luba la fête, fête, lurina canna del sol, luna lunetta, luna lunetta, luba la fête, fête, lurina canna del sol, luna lunetta. Lì, sette femmine nude lì, nude lì è troppo poco, sette femmine nude al poco, sette femmine nude lì, lì, sette femmine nude al poco, nude lì è troppo poco, sette femmine nude al poco, nude lì è troppo poco. E l'uva dove tu ci duci, sette femmine venna luce, la luce è diffidente, sette femmine non si impendi, sette femmine venna luce, l'uva dove tu ci duci, sette femmine non si impendi, e la luce è diffidente, sette femmine non si impendi, e la luce è diffidente. E lui si prende scini e con una vivere alla vacca, la vacca mi ricorda con una vivere alla donna, la vivere alla vacca, lui si prende scini e con una vivere alla donna, che la vacca mi ricorda, la vivere alla donna, che la vacca mi ricorda.
Un sumano con gli andarrucqua e fuma che la soffica.
E la donna è scendigliosa, non la vivere alla vignosa, non vignosa, non ti parlo, un tanto si chiappò, la vivere alla vignosa.
C'était un extrait de La Tarantella, l'un des albums phares du label Alpha, Christina Pluart et toutes ses troupes de l'arpeggiata avec entre autres Marco Bisley à l'époque. Bonjour Didier Martin.
Bonjour.
On va refaire un peu d'histoire du label Alpha qui est quand même un label discographique très cher au cœur des mélomanes amateurs de musique classique. Le label a été fondé en 1999 par Jean-Paul Combet.
Absolument.
Racheté en 2006 par Outer. Qu'est-ce que c'était qu'Outer à l'époque déjà? Rappelez-nous ça.
Outer a été créé par un mélomane, homme d'affaires belge, qui s'appelle Charles Andriensen, passionné de musique, et qui a eu envie de découvrir ce secteur et qui a peu à peu acquis une dizaine de labels et donc a créé un groupe indépendant de labels qui est aujourd'hui un des plus actifs. Ouais.
Des labels acquis, vous dites bien, mais créés pour certains d'entre eux. Phi, par exemple, qui est le label de Philippe Hervé, qui a été...
Voilà, Phi a été créé sur mesure pour Philippe Hervé, et c'est lui qui en est l'acteur, le directeur artistique et l'âme.
Alors, parmi les autres labels, on citera Richard Carr, Eon, Zigzag, des labels qui sont très anciens,
absolument.
Puis d'autres labels qui ont évidemment pu évoluer avec le temps. Vous avez pris, Didier Martin, la direction d'Alpha Classics il y a 6 mois maintenant, avec la volonté de refonder un peu tout ça, parce que la situation du disque, elle est quand même compliquée aujourd'hui, vous me le confirmez, non?
Elle est compliquée, mais on cherche des chemins. D'abord, la volonté de consolider les relations avec tous les artistes qui ont fait l'histoire de ces labels, car c'est une histoire de grande fidélité, que ce soit avec Vincent Dumestre, que ce soit avec les Belchéa, que ce soit avec Quartet, que ce soit avec Nelson Gurner. La volonté d'abord est de consolider les relations avec eux et puis de signer de nouveaux artistes, évidemment.
On va parler de ça, mais auparavant, deux mots sur vous, Didier Martin. Vous avez été pendant combien d'années déjà
15
chez Naïve avant d'arriver chez
15 ans chez Naïve, pratiquement depuis l'origine.
Vous avez fait de très belles choses là-bas. Enfin, il y a eu de très beaux disques aussi. Hein. La série Vivaldi, c'était vous ou non?
Oui, oui.
Un peu quand même. Hein.
C'est nous et c'est une aventure formidable et... J'espère qu'elle continuera longtemps.
Je dis ça parce qu'elle a été un peu symbolique. Comment se porte Naïve aujourd'hui? Là, on a l'impression que c'est vraiment une fin de course.
Ben, Naïve est toujours là. Naïve, je crois, sort des nouveautés. Et j'espère que ça durera longtemps parce que je crois qu'il faut qu'on soit nombreux et qu'on se batte et qu'on poursuive notre travail.
Ouais. Vous dites bien dans le disque quand même, il faut inventer tout le temps. C'est combien une vente aujourd'hui dans le disque classique moyenne?
Il n'y a plus de règles, mais aujourd'hui, je crois que nos équipes sont des structures qui sont très courtes et on va vite. Et je crois qu'avec quelques milliers de ventes, on peut faire vivre une société.
Milliers de ventes sur tous les exemplaires d'une même maison, c'est ça?
Pour chaque sortie.
Ah, pour chaque sortie, d'accord.
Ce qui a tué l'industrie du disque, c'est le mot industrie, justement. C'est d'avoir perdu ce côté artisanal. Et je pense que nous... Timpani inclus, on a le modèle, alors c'est compliqué, c'est une bataille de tous les jours, mais on a le modèle qui peut nous permettre de survivre aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, de dématérialisation, etc.
Pourquoi cite-t-il Timpani? Parce que le patron de Timpani, Stéphane Topakian, est avec nous aussi. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors vous fêtez votre 25e anniversaire.
25 ans de Timpani, c'était exactement, oui, au printemps, au mois de mai, je crois, il y a tout juste 25 ans.
Bah écoutez, ça a tenu, à travers tous les chaos de ce monde.
Ça a tenu, je
ne
sais pas combien de temps ça tiendra. Je dis, ça, je dis ça souvent depuis quelques années. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile.
Ce qui permet de tenir, en tout, c'est d'avoir un catalogue, c'est-à-dire beaucoup de choses enregistrées par le passé qu'on peut redonner.
Oui, il y a
encore.
Ça, et surtout, j'ai fait un choix au bout de, je ne sais plus si c'était au bout d'un an ou deux ou trois ans de maison, qui a consisté, parce que ça m'a plu, à faire de la musique française. Et c'est vrai que je me suis fixé là-dedans. Donc, c'est, comme on dit, une niche. À la fois, c'est difficile, et en même temps, je suis seul. À part, mes seuls concurrents sont un peu les Anglais, un peu Naxos. Mais sinon, je suis seul, oui. Donc, quand on cherche du Repars, on vient chez moi.
Oui, c'est ça. Voilà. Ou du Jean Crache.
Je ne dis pas qu'on en cherche beaucoup, mais quand on en cherche, il est là.
Et ça se vend combien, un Repars, justement, un Jean Crache et un Panini?
Ça dépend. Ah ben, Jean Crache, curieusement, ça a toujours très bien marché.
Ah ouais.
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de l'idée du marin, de l'amiral sur son bateau, peut-être. Alors donc, il y a des disques de Jean Crache que j'ai fait, un des premiers disques d'orchestre que je... Constamment, enfin tous les 2-3 ans, je suis obligé de represser, ce qui est très bien. Bon, ceci étant, le nombre de pressages maintenant n'est pas non plus forcément significatif, puisqu'on va vers sur le téléchargement. Et le streaming.
Alors ça, on va en causer avec tous les deux. Ce sera plutôt pour Timpani en deuxième partie d'émission, la première. Donc, sur Alpha, on a tracé très rapidement l'histoire. Il va falloir parler du présent.
Thank you.
C'est un petit menuet dans une petite sonate, mais c'est un grand compositeur, Beethoven, qu'on entendait ici dans cet extrait de la sonate en sol majeur, sa 20e, sous les doigts d'Olga Pashchenko, au pianoforte. Le disque est paru il y a peu, donc, sur le label Alpha. Alors, disons un peu plus, Didier Martin, sur ce label-là qu'on connaît bien et auquel nos auditeurs sont très attachés, bien sûr, parce qu'outre les souvenirs de Christina Pluart qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi tous ceux de Vincent Dumestre, de bien d'autres artistes encore. Que va devenir Alpha, donc, le label, dans les années qui viennent sous votre direction ?
Alpha, comme je le disais, va continuer et va s'ouvrir à d'autres artistes, à d'autres répertoires. C'est vrai que la réputation d'Alpha s'est créée sur le baroque, même s'il y a eu beaucoup de projets déjà avec Éric Lesage, par exemple, dans Schumann, explorer d'autres répertoires. Mais c'est vrai que le baroque a été un fondement qu'on va continuer. Vincent Dumestre est un pilier, Alexis Kossenko est un pilier, Bruno Coxet. On sort
qui est là depuis les origines aussi.
Qui est là depuis les origines et qui est un formidable musicien. Et qui avait enregistré un disque de Barrière, Jean Barrière, qui avait eu un succès éditorial et de vente incroyable. Donc on sort un volume 2 en fin d'année. Mais ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est une ouverture encore plus large à d'autres répertoires, même jusqu'à la musique contemporaine, puisque par exemple, on a le projet d'éditer les 3 concertos de Peter Edvösch, qui ont été créés ici même, à l'ouverture de votre auditorium et qu'on a enregistré avec Radio France pendant une semaine avant au studio.
Alors donc Alpha, pas de problème pour ce label-là. En revanche, pour les autres Zigzag, Aeon, Fuga Libera, etc., c'est plus questionnant. Ceux-là, vous les fermez en fait, c'est ça ?
Pas du tout. Non, Fuga Libera est déjà devenu un label digital, donc, qui sort uniquement des enregistrements numériques. Aeon et Richard Carr continue sous la houlette de leur fondateur, de leur directeur artistique, Jérôme Lejeune pour Richard Carr, qui fait un travail formidable dans un domaine très spécialisé. En revanche, Alpha devient en effet la tête de pont du groupe. On l'a ressenti pour se faire mieux connaître, pour clarifier aussi notre identité et pour se faire mieux connaître, notamment à l'international. On a senti le besoin aussi pour aller chercher des artistes de dimension internationale d'avoir une image et une marque plus claire. Donc on continue avec les artistes de Zigzag plus que jamais. Une admiration sans borne pour Nelson Gurner qui est à mon avis un des plus grands pianistes aujourd'hui. Mais les prochains enregistrements de Nelson sortiront sous Alpha. Même chose pour le Quatuor Belchea, même chose pour Teddy Papavrami et tous les artistes historiques de Zigzag.
Donc le label Zigzag s'arrêtera, lui, pour le coup, définitivement.
L'identité, la marque Zigzag s'arrête, mais les artistes restent. Et le directeur artistique de Zigzag, qui est Franck Jaffray, qui est un des deux fondateurs avec Sylvie Brély du label, continue avec nous. Il est en studio, il vient d'enregistrer avec Nelson un superbe disque Beethoven. Donc, il continue à suivre ses artistes.
En même temps, quand Wouter a commencé il y a une dizaine d'années, on s'est dit tout de suite, ce monsieur qui nous vient de Belgique va racheter tout un tas de labels et puis va tous les fondre en un seul pour avoir une seule marque. Mais finalement, c'est ce qui finit presque par se faire. Il aura fallu 10 ans.
Aujourd'hui, on a ressenti cette nécessité, mais c'est un habillage de communication, je dirais. L'essentiel, c'est que la qualité reste, c'est que les artistes restent. On continue à faire des enregistrements dans les meilleurs studios avec les meilleurs pianos, les meilleurs préparateurs, les meilleurs ingénieurs du son. On continue à avoir un vrai travail d'éditeur, de producteur. C'est ça qui est important. Si vous interrogez les artistes historiques de la maison, je ne pense pas qu'ils se sentent perdus et qu'ils se sentent abandonnés.
Les artistes, alors parlons-en justement. Vous en faites venir quelques-uns. Voici Véronique Gens, qui était... Ouais. Mais je ne savais pas qu'elle allait venir chez vous. Mais c'est le cas, visiblement, et pour un récital de mélodie qui va paraître bientôt, c'est
pour
ça?
Pour plusieurs projets. Le premier étant en effet un récital de mélodie française qu'elle a enregistré avec Suzanne Manoff il y a peu de temps dans un sublime studio avec un sublime piano à Berlin et avec un magnifique directeur artistique ingénieur du son que vous connaissez bien aussi dans la maison qui est Daniel Zallet. Et donc mélodie française, Reynaldo Hahn, Chausson, Duparc. Je crois que son dernier récital de mélodie date d'il y a plus de 15 ans. Mmh. Donc il était temps de réentendre cette grande dame de l'art vocal français dans ce répertoire-là.
Neyer, une mélodie de Reynaldo Hahn chantée par Véronique Gens au piano Suzanne Manoff. Le disque sera à paraître sur le label Alpha au mois d'octobre. Il y aura encore de belles choses chez Alpha pour ceux qui s'inquiéteraient, hein,
c'est
Didier
beau.
Martin.
C'est beau. Très beau, on dit que la mélodie française, ça vend pas, c'est dur, mais c'est de la chanson. Enfin, elles étaient en lévitation, les deux.
Il faut dire, Suzanne Manoff, vous me rappeliez, là, vous la connaissez bien, c'est vous qui lui avez fait faire chez Naïf ces disques avec Sandrine Piau, les beaux disques de mélodie qu'elles ont fait ensemble.
Absolument, le duo Suzanne-Sandrine Piau est aussi un duo magnifique. Et d'ailleurs, Sandrine Piau n'a pas été pour rien dans ma rencontre avec Véronique Gens. Elles ont une énorme admiration l'une pour l'autre et une vraie complicité. Elles sont magnifiques que l'une et l'autre.
Comment vous voyez votre métier, vous, Didier Martin? Est-ce que vous participez aux enregistrements comme directeur artistique ou vous simplement vous mettez les choses en place et vous suivez de loin? Vous allez me dire, ça dépend peut-être?
Alors ça dépend, en effet, je suis un peu le chef d'orchestre de tout ça pour que tout fonctionne à peu près en même temps. Je passe au maximum sur les enregistrements, mais je ne peux pas y rester pendant les 5 jours où ça se passe. Donc là, avec Suzanne et Véronique Jans, je suis resté quelques jours avec elle et j'ai passé d'ailleurs un moment assez magique. Donc j'essaye d'y aller, mais après c'est vrai que, comme je le disais, nous sommes de petites équipes, donc il faut que le show continue par ailleurs, que les disques sortent et que la distribution internationale se mette en place. Alors il y a toute une équipe chez Aoutir, que ce soit à Paris, à Bruxelles, il y a un bureau maintenant à Cologne. Mmh. Je crois que le moteur pour nous, c'est ce contact avec les artistes, c'est cette relation et c'est ces émotions et on fonctionne au coup de cœur.
Mmh. Et puis on va dire toujours que dans ce travail-là, on est entre l'artistique et l'industriel ou le commercial. Hein, c'est ça qui est comme la particularité, parce qu'on a tendance à penser que les deux sont incompatibles.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de marché, comme on dit. Oui. On est dans des c'est avec cet horrible terme de niche. Donc, il n'y a plus de recettes. On ne va pas dire qu'on va réenregistrer Chopin parce que Chopin, les gens aiment. Il y a 50 000 enregistrements. Mmh. Le répertoire ne nous fait jamais peur et je pense que ce qui est important, c'est que l'artistique soit au cœur de tout. Mmh. Et qu'on ait une vision moyen terme et long terme et que le projet artistique soit à la fois osé, soit convaincant. On est dans un métier de conviction.
Mmh. Avec vous dites bien l'artistique, mais pour vous, ça passe avant tout par l'interprète. Parce que là, on comprend bien qu'avec Alpha, c'est autour de l'interprète que ça tourne et les répertoires vont se croiser hardiment.
Oui, c'est ce qui fait peut-être la plus grande différence entre Timpani et nous, même s'il y a plein de points communs après par ailleurs, c'est que nous sommes en effet portés par notre relation aux artistes et par le projet qu'on développe avec eux sur la durée. Mmh. Il n'y a pas d'artistes qui viennent pour faire un seul projet ou très exceptionnellement, mais on est dans une relation de long terme. On construit quelque chose. On est des éditeurs, quoi.
Stéphane Topakian, vous êtes un plus petit label, on va dire, qu'Alpha. Vous, hein, les moyens sont beaucoup plus limités.
Plus ancien.
Plus ancien, en revanche. Et vous faites tout, je crois, chez vous.
Hein. Ah non. Enfin, non oui, oui. Ah si. Oui, enfin, oui. Commercial ou autre, c'est vrai. C'est même trop. Et j'essaye en plus d'être là aux enregistrements. Enfin, en général, je suis là. Souvent, je suis le premier arrivé, le premier matin et le dernier parti, le dernier soir. Mais bon, il y a des occasions où je ne peux pas être là. Mais c'est rare, quand même.
Et puis, vous, alors, on l'a un petit peu suggéré là avec Didier, vous, la particularité aussi, c'est moins autour de l'interprète que ça tourne, pour le coup, que des répertoires.
Hein, c'est vrai que j'aime bien, par exemple, pour parler avec Jean, qui est une artiste merveilleuse, qui fait un disque récital, moi, c'est vrai que je pars plutôt du compositeur. Mmh. Donc, à un moment donné, je m'y tiens. Il y a des mélodies d'affaires de personnes. Alors je cherche des interprètes, mais des grands aussi, mais qui acceptent ce jeu qui consiste à ne pas faire un disque récital, mais à servir un compositeur. Mmh. Et c'est pour ça que souvent, la variété n'est pas au niveau donc, du compositeur, mais des interprètes. Donc quand je fais les mélodies, très souvent, j'ai un chanteur, enfin un baryton, une mezzo, et puis voilà, un pianiste.
Mmh. Tout ça se mêle. On va entendre ici, alors puisqu'on a évoqué quelques souvenirs façon plus art avec Alpha, et bien voici quelques autres avec Timpani pour la musique de Jean Cras. Thank you. Il y avait plein de gens ici, dont Juliette Turel à la flûte, qui sera demain dans cette émission, mais aussi Marie-Pierre Langlamé, Philippe Graffin, Miguel da Silva, Henri de Marquette, pour ce final du quintet de Jean Cras. Et c'est Raphaël qui prépare cette émission, qui adore Jean Cras, m'a-t-il dit. Tu reçois Stéphane Topakian de Tapani. Faut qu'on écoute du Jean Cras, du Jean Cras, du Jean Cras. Ben voilà, nous avons eu donc du Jean Cras, qui est donc le compositeur que vous avez mis en avant plus que tout autre encore, hein, Stéphane.
Oui, avec d'autres quand même, je pense en particulier à Repas, je pense aussi à Pierre Ney, oui. Pauvre Pierre Ney qu'on oublie toujours et qui mérite d'être servi parce que, comme disait je ne sais plus qui, un gros problème de musique, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre pour le musicien dans Pierre Ney, toujours quelque chose à apprendre, voilà, c'est une musique très riche. Oui.
Donc, où est-ce que vous allez chercher toutes ces musiques-là? Elles sont dans des bibliothèques ou elles sont éditées toutes?
Ah non, la plupart du temps c'est édité, le problème c'est, justement le problème c'est l'édition française, vous feriez faire un jour une émission sur l'édition musicale française, parce que là aussi c'est, il n'y en a presque plus, hein, ça a été racheté. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, quand on a fait l'intégrale, la musique de chambre de Pierre Ney, quand même 4 disques, je m'étais rapproché de l'éditeur principal, hein, il y en avait plusieurs, mais enfin, qui avait une quinzaine d'œuvres, des petites choses, trio, quintet, ça. Voilà, monsieur, on va faire l'intégrale, donc vous pouvez mettre ça à disposition, on les paiera, il n'y a pas de souci, mais voilà, on voudrait ça. Réponse de ce grand éditeur français. Oh, écoutez, vous m'embêtez. Tenez, avec notre bénédiction, allez à la Bibliothèque nationale vous faire des photocopies.
Ah bon?
Et alors, j'ai gardé la lettre parce que ça mérite d'être encadré. Alors, vous comprenez qu'après, quand ils viennent se plaindre, par exemple, que l'édition se retrouve, des trucs protégés se retrouvent sur Internet, je ne veux pas citer le site, mais on le connaît, où on trouve ces partitions, je dis c'est très bien. C'est très bien.
Parce qu'au moins, elles sont disponibles.
Bah, si les gens ne font pas leur boulot, il faut bien que quelqu'un le fasse.
En 25 ans, vous avez fait combien de disques, Stéphane Topakian, pour Tapani?
Oh, je ne sais plus, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai dû abandonner en route. Mais disons qu'en...
Ça se compte en centaines, quand même.
Comment?
En centaines. Peut-être en milliers,
de vivants, des références vivantes, on va dire, il y a 150 références vivantes.
D'accord.
Alors après, il y en a, on vous dit, quelques-uns qui sont passés à la trappe, voilà. Bon.
Ouais. Et comme toujours dans le disque, il y a des ratés aussi, il y a très grandes réussites, il y a des ratés, il faut chercher, on ne sait jamais à l'avance si ça va réussir ou pas.
On se dit on va réussir ça à tout point de vue, hein, artistiquement, on sent le projet, et puis voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais c'est pas bien grave.
Oui, voilà. Non, bien sûr.
Mais je veux dire que, là, on le sait très bien, parce que souvent on me dit, mais alors est-ce que tu es attentif aux critiques? Je vais vous dire, le meilleur critique, c'est moi, hein. Et j'ai pas besoin que le disque sorte. À la fin des séances, le dernier jour, en quittant le studio, je sais si ça va être un grand disque, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, un très bon disque ou un disque un petit peu moins bon.
C'est vrai que c'est un petit peu la loi du genre, mais ça, le public ne se le représente pas toujours. Didier Martin, on fait tout ce qu'il faut pour que ça marche, évidemment, mais il y a toujours on ne sait pas, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, ce que ça va donner au bout du compte, ce que ce sera, ce disque.
Ben, c'est clair qu'on est sur une matière qu'on ne peut pas maîtriser de A à Z. Et une des contradictions du moment, c'est que le marché va très très mal, mais il n'y a jamais eu autant de disques qui sortent.
Et comment vous expliquez ça d'ailleurs ?
Et quels sont ces disques ? Quelle est la part entre ceux qui sont réellement produits, qui sont réellement pensés par un producteur, un éditeur, un travail de longue haleine, et ceux qui sont faits... l'expression au cul du concert, des enregistrements live qui sont édités, réédités pour que les orchestres vivent, pour que les institutions vivent. C'est un des problèmes aujourd'hui. Je crois que notre travail, c'est d'offrir les meilleures conditions, peut-être de faire moins de choses, mais d'offrir les meilleures conditions possibles.
Faire un peu moins de disques,
mais pardon. On a beau avoir toutes les réverbérations possibles, tous les logiciels qui peuvent exister aujourd'hui, si la salle est pourrie, si le piano n'est pas bon, s'il y a eu un problème d'accord, s'il y a un problème d'hygrométrie, ça sera raté. En revanche, si les conditions sont idéales, on vit des moments absolument magiques.
Comment vous expliquez d'ailleurs qu'il y ait tellement de disques aujourd'hui, tellement de sorties nouvelles, Stéphane?
je fais beaucoup de choses. Parce que, à la fois, c'est compliqué de faire un disque, en même temps très simple. Hein, parce qu'aujourd'hui, en numérique, oui. Je veux dire, vous mettez une paire de micros devant un piano. Bon, voilà, vous pouvez faire un disque.
Ceci étant. Je crois que ce sera pas nécessairement bon,
non,
mais.
Non. Mais par contre, je crois qu'il y a. Non, Jean Bray, un peu sur ce que disait Didier. Il y a une chose vraiment, je crois, qui a changé, parce que j'ai 25 ans d'expérience. Il y a 25 ans, je pouvais dire, je suis producteur de disques. Aujourd'hui, j'ose pas trop le dire. Parce que je crois que les labels. Même chez les majors, qui disent on produit des disques, non. On n'a plus personne n'a vraiment les moyens de produire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes quand même pas à la merci, mais enfin, pourquoi il y a beaucoup de disques? Parce que vous avez beaucoup de disques sont produits par les artistes. Ah, oui. Vous savez, je suis très joué dans Schumann, ah bon, tant mieux. Et bien voilà, j'ai une idée de faire un Schumann et j'ai l'argent de faire un Schumann. Alors,
vous dire que l'artiste paye lui-même son disque et vous l'apporte après
en évidemment, vous disant, alors, soit il l'apporte avant. Quand il est malin, parce que soit il apporte après, quand il est pas malin, parce qu'après le mal est fait souvent. On va dire, écoutez, non, merci, c'est gentil. Allez voir un tel si vous voulez, mais pas chez moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous dites, être producteur, les coûts sont quand même assez importants. Et comme vous le disiez, le marché est très erratique. On peut vendre avec un succès, mais enfin, bon, on peut aussi pas vendre très peu. Alors il fut à une époque où les ventes étaient suffisantes pour produire une partie d'histoire, pour amener de l'argent, de l'aliment à un disque. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les labels, en fait, les ventes servent souvent à éponger les frais fixes. Mais la production du disque lui-même, c'est de plus en plus difficile.
Disons que ce qui est compliqué, c'est dès que, pour un artiste seul, c'est encore faisable. En tout cas, nous, on le fait. Mais dès qu'on est sur un orchestre, notamment d'intermittents, dès qu'on a beaucoup de monde sur le plateau, il faut que tout le monde soit payé. Et là, on ne peut pas le faire tout seul.
Et oui, mais c'est généralement leur. Je veux dire que je vous conçois.
Et du coup, c'est la subvention publique qui se. Oui. Indirectement, aux ensembles.
Non, je fais des disques d'orchestre. Je suis certainement le label français qui est indépendant, hein, qui a fait le plus de disques d'orchestre, que ce soit à Luxembourg, j'en ai fait beaucoup, mais aussi en France. C'est impensable de faire un disque d'orchestre. Quand je dis vraiment d'orchestre, c'est symphonique. Hein. C'est les 60 ou 80 personnes sur le plateau. C'est impossible de faire un disque d'orchestre quand l'orchestre ne s'apporte pas lui-même dans un corbeille de mariée. C'est-à-dire, l'orchestre produit le disque. Évidemment, personne n'a les moyens de payer 80 musiciens, et soliste, un chef, une salle.
Cas pour les orchestres symphoniques constitués, subventionnés, oui, etc. Sûr. Dans le domaine de la musique baroque, c'est plus compliqué parce que ce sont des intermittents. Et dans ce cas-là, il faut se mettre plusieurs autour de la table. Nous, on développe une collection avec le château de Versailles. Et c'est vrai que sans le travail en commun, l'Opéra de Versailles produisant le concert, nous enregistrant derrière,
en coproduction.
On
coproduction.
L'un des derniers très beaux disques de Timpani, c'est pour Jacques Ibert, et c'est Jacques Mercier qui dirige.
Thank you.
Un extrait des Amours de Jupiter, musique de Jacques Ibert. On retrouve ça sur un disque intitulé pour le reste, pour l'autre pièce, Le Chevalier Errant, du même Ibert, Jacques Mercier, l'Orchestre National de Lorraine. C'est fort beau tout ça. Ça se trouve comment une pièce comme ça, Stéphane Topakian?
Ah bon, non, pas quand l'orchestre, on en discute avec le directeur musical, en l'occurrence le chef, c'est Jacques Mercier, c'est longtemps à l'avance. Et tu connais ça, non, écoute ça. Et alors voilà, et puis à un moment donné, on décide. Bon, là, je peux vous le dire, voilà, un scoop, n'est-ce pas? Là, on a décidé le 10 de l'année, qu'on enregistre donc celle à Toussaint. Ça va être consacré à un compositeur français, là aussi négligé, qui est Louis Aubert.
Ah oui, oui, oui.
Ouais, c'est l'auteur de La Forêt Bleue et tout ça. Et voilà, donc on a fait ce choix-là, de Louis Aubert.
Une chose dont on n'a pas parlé encore avec tous les deux, les questions de distribution, parce que c'est important, on ne se rend pas toujours bien compte, c'est bien de produire des disques, de les faire, de les avoir comme ça en physique, mais après il faut arriver à les distribuer. Vous êtes distribué par qui, vous, Wouter, Didier Martin, par vous-même, c'est ça?
On a créé notre propre distribution il y a un peu plus d'un an, ouais, pour la France et pour le Benelux. Et en dehors de ces deux territoires, on a des partenaires, que ce soit Naxos aux États-Unis, que ce soit Note Heinz en Allemagne. Dans chaque pays, on a j'espère le meilleur partenaire pour la distribution.
Alors vous, à Tapani, c'est plutôt Harmonia Mundi.
Alors, c'est Harmonia Mundi pour
la France. Sauf qu'Harmonia Mundi donc vient se faire, alors j'ai pas tout compris, racheté par Piast, qui est un label belge à nouveau.
C'est pas un label, enfin c'est en tout cas une entité belge, je ne sais pas beaucoup plus que vous. Mais moi je suis distribué en effet par Harmonia Mundi, mais c'est récent, hein, c'est le début mars. Et à l'international, une plateforme qui est le NGL Naxos à Munich, qui arrose le monde, voilà. Donc avec des partenaires, dans on a parfois les mêmes, hein, je veux dire, Naxos of America ou Note Heinz en Allemagne. Oui, oui, oui.
Et Piast, alors puisqu'on en parle, c'est quoi Didier Martin?
Piast, c'est un label belgo-anglais, ouais, qui a une forte place dans la pop.
C'est ça.
Donc qui n'avait jusque-là pas du tout d'activité dans le classique.
Et on se demande pourquoi ils ont racheté du coup Harmonia Mundi, enfin les activités disques de Harmonia Mundi. On s'inquiète un peu, on a raison à votre avis?
Il faut leur poser la question. En tout cas, Harmonia Mundi est une grande dame, est un magnifique label, et ils ont eu raison.
Eh oui, ils ont eu raison pourquoi? De les racheter, c'est ça?
Oui, parce que la question de l'avenir d'Harmonia Mundi se posait. Ouais. Sa fondatrice Eva Koutaz recherchait de nouveaux partenaires. Et c'est heureux qu'elle ait trouvé un partenaire dans notre secteur.
Ouais,
qui connaît la musique et qui a apparemment envie de continuer.
Ah ouais, dont on espère qu'il... Voilà. Est-ce que vous voyez racheter un jour, Stéphane Topakian, Timpani? Parce que j'ai l'impression que ça se rachète. Vas-y, que je te...
C'est vrai que ça pourrait se faire. Je veux dire que le problème, dans mon cas... c'est que je suis en effet tout seul, comme vous l'avez dit. Donc ça signifie que le problème va se poser de ma succession, oui, bien sûr. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait un repreneur, parce que sinon, ça finit comme ça. Regardez, lorsque le regretté Michel Bernstein est décédé il y a maintenant 5-6 ans...
Pour le label Arcana, c'est ça
Oui, qui a été repris par Routier.
Oui, mais avant c'était par ces Italiens. Vous avez quand même Michel Liens, qui il y a 2 ans est mort. Bon, voilà, c'est devenu un peu ses édélités. Quand le Calvé s'est arrêté, pareil, ça devient un peu n'importe quoi. Non, j'espère que je pourrai organiser ça avant de m'en aller. Oui, tout
à fait. C'est marrant, il y a des labels qui sont liés, en fait, c'est vrai, à une personne. Vous le dites bien, puis il y en a d'autres qui arrivent.
Oui, mais parce que voilà, c'est une structure, c'était un holding avec plusieurs labels, donc c'est différent. Lorsqu'on a un label vraiment indépendant comme le mien, oui, se pose le problème de la survivance. Il ne faut pas que ça parte en quenouille.
C'est bien une question d'identité aussi, un label, vous nous le rappelez tout à l'heure, Didier Martin, mais c'est aussi pour l'auditeur, question d'affectivité. On sent bien compte que les mélomanes, ils ont leur label, ils y sont souvent très attachés. Harmonia Mundi représente quelque chose, Alpha représente quelque chose aussi. C'est compliqué. Absolument. Un petit peu de jouer avec ça quand on dirige ses labels, non?
C'est compliqué, mais il faut le faire avec, je le disais, avec conviction. Donc là, je suis un bébé chez Alpha, mais au bout de 15 ans de travail chez Naïve, les plus beaux compléments étaient de la part d'autres labels ou d'artistes qui disaient « on sent la patte Naïve ». Il n'y a rien qui se ressemble, il y a du Sapin, il y a Juliette Hurel, il y a Accentus, il y a Rinaldo Alessandrini, mais il y a une patte Naïve qu'on avait réussi à créer, Alors, on ne va pas refaire la même chose, évidemment, mais on va essayer d'avoir les mêmes convictions.
Comme quoi vous croyez à la force du directeur artistique, hein, celui qui insuffle véritablement.
Non, c'est une famille d'artistes. Ça se fait. D'ailleurs, certains se cooptent entre eux, nous proposent des choses. Ça se fait ensemble, quoi.
Kéklin, c'est l'extrait que vous nous avez apporté encore. Stéphane Topakian, une des nouveautés du label Timpani, des mélodies de Charles Kéklin.
Mélodie
on sera bien content parce qu'on voit là Julien Bert, qu'on a très très peu vu au disque.
Oui, hein, et c'est vrai, il commence une très belle carrière. Ouais. C'est un disque, au départ, c'était surtout c'est le deuxième disque que je fais avec Régine Teodorescu, qui dirige le chœur Calliope. Et enfin, le premier disque qu'on n'avait pas fait ensemble. J'avais repris un disque qu'ils avaient fait, qui avait disparu, qui était dit de Schmitt. Et puis j'ai dit, bon, il faudrait faire autre chose. Et on a pensé à Kéklin, en disant, il y a pas mal d'œuvres. Et puis elle a un petit peu changé le programme en cours de route. C'est-à-dire qu'à ses mélodies, à ses chœurs, pardon, qui comportaient parfois des solistes, elle a gardé aussi les solistes et elle leur a fait chanter des mélodies. Et donc là, je crois que l'extrait, c'est Julien Bert plus le chœur.
D'accord.
Sois le bienvenu, rouge d'âme, à tout dans ton riche appareil. Embrasse le grand soleil, que la vigne paraît
L'automne, d'après Théodore de Banville, c'est une première mondiale au disque qui nous arrive là de Charles Kéklin, Julien Bert avec le chœur Calliope de Régine Teodorescu. Nicolas Jouve était au piano, ça vient tout juste donc d'arriver, c'est l'une de vos dernières sorties. Stéphane Topakian, je me rends compte soudain, on arrive à la fin de cette émission, quasiment on n'a pas parlé de dématérialisation, messieurs, alors qu'on me dit que c'est le... Enfin, je ne sais pas, où vous en êtes, vous, de votre réflexion là-dessus, tiens, Stéphane.
Faut le faire, mais on n'y croit pas trop.
Hein,
non, ça... c'est pas ça. C'est que ça a été, une fois de plus, on a, c'est vrai que ça n'a pas été pensé vraiment pour le classique, la dématérialisation.
Là, oui.
Vous savez, j'ai l'habitude de dire un paradoxe, mais c'est, je crois qu'il est vrai. C'est qu'on dit toujours, c'est le téléchargement, ça, c'est l'héritier du CD. Même pas. Alors, techniquement, bon, c'est l'héritier du 78 tours.
Ah bon?
Mais oui. C'est-à-dire qu'on est resté figé sur un machin de 3 minutes et demie à 4 minutes.
Ah oui.
Et on vend du truc. Mais oui.
Voilà. C'est pas faux.
Mais oui. Et ça fait un siècle que ça dure. Mmh. Et on essaie de faire rentrer là-dedans des choses qui ne sont pas prévues pour. Donc vous avez la tétralogie.
Wagner, vous savez,
ou une Bruckner. Ben voilà, ou une famille de Bruckner. Bon, moi, je trouve que ça a été mal conçu. Bon, je voulais le faire avec, mais ça aurait pu être un objet vraiment numérique. C'est-à-dire, pour moi, un objet numérique, une œuvre peut faire 10 minutes, elle peut faire 3 heures, peu importe. Et puis on peut apporter d'autres choses avec le numérique. Mmh. Bon. Or là, non, ça a été fait pour la variette. On fait rentrer là-dedans le classique.
Il y a un petit peu de mal. Didier, Martin ?
Bon, c'est une évolution évidemment inéluctable. Le grand pas qui va se faire dans quelques jours, c'est le lancement de la plateforme Apple Music, qui va donner un gros coup de vieux au téléchargement. Donc cette fois, on rentre à fond dans le streaming.
Ah oui, pour vous, c'est vraiment un changement, alors ?
Ah bah oui, Apple est un acteur qui a quelques millions de clients potentiels dans ses tablettes et qui a une puissance de feu incroyable. Mais la différence entre Apple et Spotify, c'est que Apple Music se lance uniquement dans le payant et pas dans le gratuit. Donc là, on peut espérer que la rémunération, ça va être le cas d'ailleurs, forcément, la rémunération des artistes et de tout le monde sera
des éditeurs aussi, donc, hein, pas des labels.
Mais de toute façon, c'est inéluctable. Je pense que les mélomanes sont en train de s'équiper d'outils pour relier leur ordinateur à leur système Hi-Fi. Ça va être le grand écart, quoi. C'est-à-dire qu'on va être, on va écouter sur son ordinateur avec des convertisseurs de haute qualité et puis on va racheter du vinyle.
Racheter du vinyle?
Moi,
il paraît que ça marche en plus, c'est vrai, vous dites ça, mais moi j'y crois pas, mais bon.
Moi j'ai un fils de 19 ans qui n'achète que du vinyle.
Ah bon? Pourquoi? Il trouve ça meilleur.
Ben oui.
D'accord.
Et que je lui ai fait découvrir Bernstein sur une vidéo, vous savez, sur YouTube, où il dirige avec juste les yeux.
Ouais.
Et depuis, il a téléchargé Le Sacre, West Side Story, tout Beethoven, voilà.
Ouais.
Tout n'est pas perdu.
Ah non, mais ça, on est bien certain que tout n'est pas perdu. Allez, sur le futur, Stéphane Topakian, quelques sorties à venir pour ta panie.
Oh, il y a du Poulenc, vous me prenez de court. Il y a du Poulenc, il y a ce...
Benjamin Godard, j'ai vu.
Godard, les quatuors, en première mondiale, les trois quatuors de Benjamin Godard.
Ouais.
Très intéressant.
Oui. Et puis des mélodies d'Arthur Honegger aussi.
Non, ça j'avais amené ça. Non, ça c'est un de mes premiers disques.
Ah bon?
Oui,
l'intégrale
des mélodies d'Arthur Honegger.
Je sais que vous avez fait la musique de chambre, ça j'en souviens très bien.
Mais aussi l'intégrale des mélodies, c'était en 91-92, au moment du centenaire de Honegger.
Et donc vous allez le ressortir aujourd'hui?
Je l'ai ressorti il y a quelques temps, et Honegger a servi un peu de fil rouge, c'est un compositeur que j'adore.
Ouais,
donc bon. Si je peux en faire, j'en ferai.
Vous concernant Didier Martin, on va dire que Gaël Arquez doit rejoindre, on peut le dire d'ailleurs, tiens pardon, tout d'un coup je me lance.
C'est tout nouveau, mais on peut le dire.
Elle rejoint l'écurie, comme on dit.
Voilà.
C'est pas un très beau terme, l'écurie d'ailleurs. Hein,
la famille.
La famille, voilà. Alpha, ce sera pas la seule d'ailleurs qui on peut citer encore.
Parmi les chanteurs, parce qu'il y aura pas mal de projets vocaux désormais, Georg Nigel, le magnifique baryton autrichien. Un fantastique ténor haut de compte qui s'appelle Reinout van Mechelen, qui a chanté avec Raphaël Pichon le Darnadus à Bordeaux récemment. Et puis il y aura les 24 préludes de Chopin par Nelson Gurner, une nouveauté avec le quatuor Belchea consacré à l'école de Vienne.
Et Hervé Niquet, on peut en parler ?
On peut en parler. On démarre une aventure avec ce formidable artiste qui fait bouger les frontières, à la fois dans la découverte de répertoire, on se rejoint avec Stéphane, puisqu'il a permis la découverte de compositeurs, alors plutôt dans le baroque, dont ce fameux Bois Mortier, ce fameux Don Quichotte qu'il a donné sur scène à l'Opéra de Versailles récemment dans la mise en scène de Charles Dino, qu'on sortira en DVD. Mais on enregistre aussi du Vivaldi, retour à Vivaldi, Gloria Magnificat, dans une version peu enregistrée avec uniquement des chœurs de fans. Et plein de projets plus différents et les uns que les autres.
Plus fous les uns que les autres concernant Hervé Niquet, c'est le terme qui convient, évidemment. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. On va refermer cette émission avec Vincent Dumestre, qui sera toujours là, lui aussi, hein, pour Alpha.
Oui, air de cours à la fin de l'année, avec son équipe habituelle, dont Marc Moyon et sa troupe.
Et sa troupe ici, le Miséréré de Louis-Nicolas Clérambault. On écoutait ça tout à l'heure en préparant l'émission, on se disait c'est superbe, on va l'écouter. C'est le dernier disque de Vincent Dumestre du Poème harmonique. Cela, mais c'est l'ouverture du Miserere de Louis-Nicolas Clérambeau. Le disque vient de paraître chez Alpha. Il est enregistré par Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre. Cette émission a été préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui José Bernays et Paul Simonacci.